Et bienvenue dans Paris Central, encore une défaite du Paris Saint-Germain face à Lorient. Ça fait 3 défaites sur les 4 derniers matchs au Parc des Princes, je crois. J'ai quasiment jamais vu ça de ma vie. J'arrive pas à me souvenir d'une période aussi sombre au niveau des matchs à domicile. On est ce soir avec Gâteau, on est avec Berdis, on est avec Lauriel. On va débrief tout ça. J'espère que vous allez bien malgré la défaite. Alors déjà, on va commencer avec le système que Galtier a utilisé aujourd'hui. C'était un 4-4-2 de base qui était ultra centré vers l'axe et nos côtés n'ont pas du tout existé pendant très très longtemps dans ce match. Alors déjà Gâteau, qu'est-ce que tu as pensé de ce système?
Ben déjà, salut Nix, salut à tous. J'espère que vous allez bien malgré cette défaite. Le système, est-ce qu'il correspondait aux joueurs qui étaient mis? Je ne pense pas. Parce que mine de rien, si tu as Messi qui est présent sur la pelouse et que tu as un 10, mieux vaut que ce soit lui. Et que tu mets Ekitike en pointe, je pense que ça aurait été plus judicieux. Au lieu de mettre Messi devant et qu'il n'y ait pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque, parce que Carlos Soler, c'était pas terrible. Non, le système n'était pas bon. Je pense qu'il y a, toujours des mouvements de système. Comment veux-tu créer des automatismes si le système change tout le temps? Tu passes à 3, c'est jamais les mêmes joueurs. Non, le système n'était pas bon cet après-midi pour moi.
Et toi, Berdis?
Ouais, je suis d'accord, le système n'était pas bon. C'est un système qui va mieux, je trouve, quand il y a Nuno Mendes sur le côté. Comme ça, il a tout le côté gauche pour lui, pour s'exprimer. On sait que Bernat, lui, il a un peu plus de mal à faire des différences offensivement. Donc là, avec ce système-là, où tu as beaucoup de monde à l'intérieur du jeu, il faut vraiment des latéraux qui te fassent les allers-retours et qui te fassent la différence sur les côtés. Bernat ne fait pas, Hakimi qui prend son carton rouge très tôt dans le match. Ça te nique un petit peu le système. Tu te trouves avec Marquinhos, arrière-droit, qui ne peut pas faire cette différence offensive et faire ses allers-retours. Donc ce système n'avait ni queue ni tête avec ce qui s'est passé durant ce match.
Lauriel?
Tout comme ce que les gars viennent de dire, hein, tout simplement. Tu vois qu'il y a une incompétence déjà tactique de base avec les joueurs qui sont alignés. On n'a pas forcément les joueurs pour pouvoir développer un 4-4-2, en tout cas de cette qualité-là. L'animation sur les côtés était très insuffisante et on a vu que avec le carton d'Hakimi, ça s'est joué très très rapidement. Et puis après, même Bernat n'a pas été assez offensif, nos milieux de terrain n'ont pas assez de coffre, on l'a vu avec la paire de Verratti c'était très compliqué, Marquinhos qui a été déboulé sur le côté droit aussi, c'était très compliqué. Donc en vrai, qu'est-ce qu'il faut dire à part que Galtier s'est mis dans le trou lui-même et il nous a mis dans le trou lui-même, en fait, simplement.
Et oui, justement, vous avez parlé d'Hakimi, c'est le premier sujet qu'on va aborder parce que c'est ce qui s'est passé en premier dans le match, concrètement, même si on avait déjà pris un but, je crois, je ne me rappelle plus de la chronologie. On va dire merci à Hakimi ce soir parce que deux cartons rouges bêtes, j'ai eu l'impression qu'il voulait sortir du match, qu'il voulait partir en vacances, ou je sais pas. C'est en 20 minutes, tu peux pas faire deux grosses fautes comme ça. Je veux bien que tu veux mettre de l'impact, ce genre de choses, c'est des choses qu'on apprécie en tant que supporter. Mais là, c'était trop. Je sais pas si, entre guillemets, ce qui se passe de côté de sa vie personnelle, sans vouloir rentrer dans les détails, affecte son jeu. Mais déjà que pendant ces deux premières années, je l'ai pas senti au top. Merci beaucoup Samir Zidane, merci beaucoup pour les 5 euros. On va attendre que la musique se termine. Donc je disais, ces deux premières années ont été très compliquées. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Alors Gâteau, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire avec Hakimi? Est-ce que tu as de l'espoir pour la saison prochaine? Parce qu'on voit un mec qui est bon avec le Maroc, qui était bon avec l'Inter, qui était bon à Dortmund. Et au Paris Saint-Germain, ça fait 2 ans et voilà, c'est pas ouf.
Alors, Hakimi, il est très bon en tant que piston droit, pas en tant que latéral droit. Il s'avère que la première saison, il a plutôt joué latéral droit que piston droit sous Mauricio Pochettino. J'aurais kiffé voir Hakimi et Nuno Mendes sur la première saison de Pochettino, ils se seraient régalés. Parce que le jeu était porté vers l'avant, c'était vraiment des transitions rapides. Là, il n'y a pas de jeu, c'est bloqué c'est par des statuts et il y a des circuits de passe qui sont faits pour se briller. Enfin, même pas fait pour briller, fait pour faire briller certains joueurs, c'est fait pour que Messi ou Mbappé puissent eux s'amuser. C'est pas pour faire gagner une équipe, ça. Donc Hakimi, évidemment, il a des difficultés. Évidemment, il réussit mieux avec le Maroc, mais le Maroc, c'est 7 matchs en Coupe du Monde. Et encore, je crois que c'est 6 parce qu'il n'a, Il n'est pas allé en finale du coup. Et lui aussi, faut qu'il montre son caractère. Parce qu'il y a trop de oui, c'est à cause de Messi, c'est à cause de Messi, c'est à cause de Messi. Oui, Messi vampirise le jeu. Oui aussi, Mbappé vampirise le jeu, mais et Hakimi aussi en est victime. Mais comme c'est son pote, on ne dit rien. Non, non, faut que Hakimi, je veux bien qu'il reste. Faut qu'il en montre plus. Parce que l'investissement qui a été fait sur lui, c'est pas pour avoir ce genre de prestations. On sent qu'il est. Il a une limite sur son potentiel parce qu'il est bloqué par quelque chose, je ne sais quoi. Alors, il y a des affaires extra-sportives qui sont sorties, peut-être qu'il va pas bien en ce moment. Mais là, aujourd'hui, la prestation, au-delà du rouge, même les prestations précédentes, elles étaient un peu timides. Donc, je pense qu'il y a un potentiel. Ça reste encore un jeune joueur. On est habitué avec les jeunes joueurs qui sont très forts tout de suite, comme Mbappé qui a 24 ans, qui a toutes les lumières sur lui. C'est un joueur qui doit progresser évidemment sur plusieurs aspects, qui peut faire de très bonnes saisons à condition qu'on le mette aussi dans les bonnes conditions. Et là aussi, faut pas oublier que le nombre d'appels qu'il fait et le nombre de ballons qui lui sont donnés, pardon, bah le ratio est très très faible. Et au bout d'un moment, tu t'énerves, au bout d'un moment, tu cours dans le vide, donc t'es vite frustré.
Ok, Samir, j'avais pas lu ton message, désolé. Tu nous as dit que tu nous fais un don en soutien car cette nouvelle prestation glorieuse du Paris Saint-Germain et qu'on a besoin de soutien. Merci beaucoup. C'était franchement, comme je disais à Gato tout à l'heure, la deuxième mi-temps, elle m'a quand même un petit peu plu parce que j'ai eu l'impression d'avoir du suspense à plusieurs moments. J'ai eu l'impression qu'on allait revenir dans le match, notamment sur la tête de Danilo. À ce moment-là, je voyais le 2-2 et le 3-2 arraché parce que Lorient avait un peu arrêté de jouer. Juste pendant que vous êtes tous là, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, n'oubliez pas qu'on a ouvert une deuxième chaîne qui s'appelle Paris Central Replay où vous avez le contenu que des lives, mais en plus court, en format de 5-10 minutes. Lauriel, je te laisse continuer sur Hakimi.
En fait, pour continuer avec ce que dit Gato, moi je vais être, je pense, un peu plus dur avec ça. Hakimi est arrivé en mode joueur prometteur, mais qui avait déjà commencé à faire ses preuves avec Dortmund et mais avec quand même surtout l'ambition de s'imposer dans un très très grand club pour pouvoir tout simplement performer encore plus au haut niveau. Et j'ai l'impression que le fait qu'il soit depuis un petit moment dans ce cocon parisien-là et qu'il se laisse aller, je ne sais pas pourquoi, hein, et on peut dire que ça peut être la concurrence, on peut dire aussi que ça peut être avec l'effet Messi, tous ces éléments-là, en fait, nous montrent que déjà de 1, je pense qu'il y a une part de lui, de son côté, qui commence à avoir un peu moins de motivation. De 2, il y a de la frustration qui rentre, parce qu'il y a des choix qui n'ont pas été bons. On en a parlé avec Messi, mais on pouvait dire aussi ce qui se passait avec la connexion Di Maria, Hakimi, notamment quand il était sur le terrain. Pour moi, je pense que pour l'année prochaine, il va falloir vraiment et très clairement qu'il se remette dedans. Sinon, va falloir aussi apporter quelque chose, c'est de se dire peut-être qu'il va falloir lui mettre quelqu'un dans les pattes. Là où j'avais un petit regain d'espoir, c'était pendant le courant de la saison où Mukiele devait revenir à un bon niveau et qui commençait à être aussi très très bon. Mais j'ai l'impression que là, il se laisse aller. Donc, j'ai envie d'être optimiste pour l'année prochaine, mais très clairement, je commence à arriver à une dose. Et aussi, on en parlait, mais on en rigolait avec des personnes sur Twitter, mais on se demandait même limite à se dire en fait quel a été le match référence de Hakimi en fait sur ces dernières années, parce que on l'a très peu vu à un très très haut niveau et il me fait peur de plus en plus, quoi.
Il a mis un doublé face à Metz une fois.
Les gars, il y a une première dans cette émission. On a reçu de l'argent de la part de Marseillais. Donc, merci Rustix. Une clownerie Saint-Germain, force à vous, allez l'OM. Merci de nous suivre, même si t'es Marseillais, c'est pas de ta faute. Si ça se trouve, c'est ton père qui est Marseillais. Et t'as pas trop eu le choix. Je tiens à célébrer Panamje qui fait son 9e mois de sub aussi. Merci beaucoup. Je t'écoute, Berdy, sur Hakimi.
Moi je me situe plus du côté de Lauriel. Je trouve qu'avec Hakimi, on est très gentil. Je ne sais pas pourquoi, même s'il y a des choses à prendre en compte, comme le fait qu'au milieu de terrain, par exemple, le playmaker, c'est Messi, qui aime beaucoup jouer sur le côté gauche plus que sur le côté droit. Au Barça, c'était avec Jordi Alba. Au PSG, il adore lancer Nuno Mendes ou Bernat sur le côté gauche. Donc déjà, ça joue aussi. Le fait que Mbappé dézone beaucoup à gauche, Ça fait aussi que le jeu bah, penche plus à gauche qu'à droite, donc forcément Hakimi est moins servi. Mais déjà à l'époque avec Di Maria, il était très peu servi. Je suis aussi d'accord sur le fait que lorsqu'il joue dans une défense à 4, on ne peut pas autant en attendre d'Hakimi parce que c'est pas là où il est bon. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que je trouve qu'avec Hakimi, on est toujours très très gentil. Peut-être parce que c'est le meilleur pote de Mbappé, peut-être parce qu'il est jeune, qu'il est marocain, etc. Peut-être parce qu'il est arrivé, il devait être une sorte de superstar en tant que latéral droit. Et aussi, surtout parce qu'on n'a pas d'autres latéraux droits au PSG qui peut le concurrencer. Même si Moukele, moi j'ai bien aimé aussi, comme a dit Lauriel, pardon, que Moukele, à un moment dans la saison, il a été excellent. Et moi, pour l'année prochaine, je laisserai une saison de plus à Hakimi, mais pas plus. Je trouve qu'on est trop gentil avec lui et je voudrais bien une vraie concurrence avec Moukele, parce que Moukele, au moins défensivement, il tape sur quelque chose. Offensivement, c'est pauvre, etc. Mais au moins, défensivement, il fait le boulot. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie concurrence entre les deux l'année prochaine. Et si l'année prochaine, encore Achraf Hakimi me déçoit, bah, faudra le laisser partir. Et ça voudra dire que ça marche pas avec le Paris Saint-Germain. Il faudra pas forcer une année de plus.
Ouais, bah, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a AZ qui nous dit, bizarrement, il prend son premier jaune après un sprint où Messi lui fait pas la passe. J'ai
Ouais.
effectivement senti un peu de frustration sur ce tacle, même si ça n'excuse pas, c'est une mauvaise performance. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez rare dans le foot. On va parler du but de Kylian Mbappé, la malice. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde était choqué. Et le regard qu'il avait en coin des yeux pour surveiller le ballon, et quand le mec il a lâché le ballon, il était prêt, il a lâché un sprint, le meilleur sprint de sa vie, et il a poussé le ballon au fond des buts. À ce moment-là, j'ai senti que le match il pouvait changer. Et on voit sur le deuxième but qu'on prend et que, comment il s'appelle, l'Orientin qui dribble Verratti puis Bernat. Je vois sur les lèvres de Kylian Mbappé, il dit c'est pas possible. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand il avait marqué le but, il avait senti que le match il allait partir dans un autre sens. Et après, c'est vite parti en vrille. Qu'est-ce que t'en penses, Gâteau?
Ouais, bon, bah, opportuniste, mais au moins il était concentré déjà sur le jeu parce que l'arbitre avait fait signe de jouer, le gardien a posé le ballon et après il est parti prendre son courage et marquer. Et puis la célébration d'ailleurs, elle en dit long parce que t'as l'impression qu'il y a un réel, réel soulagement. Je pense que lui aussi il en a un peu marre, mais au niveau du match après, c'est vrai que. À la suite de ça, quand on l'a vu qu'il y avait des. Il a tenté de faire des choses, il a tenté de faire des choses quand même, ça marchait pas. Maintenant, le but en tant que tel, il a créé confusion. Après, bon, on l'a vu que par la suite, c'était pas terrible. Je pense quand même qu'on aurait pu mieux faire après avoir pris le but, parce que très vite après, on en a repris un autre. C'est ça qui m'a gêné. Voilà.
Et toi, Lauriel?
Tu vois, en fait, tu le vois sur les images, bah, tout simplement déjà le geste de l'arbitre qui lui dit au gardien très clairement de jouer. Donc, comme dit Gattuso, tu vois que Mbappé est totalement concentré en fait dans le match. Donc, il fait un peu de malice et tu vois que bah, au final, avec son jeune âge, il a pas mal d'expérience, donc il arrive à être très très attentif. Donc, le but, il arrive aussi à un bon moment où ça te fait du bien de revenir un petit peu au score, de dire bon bah ok on va être un peu plus tranquille et normalement le jeu devrait un peu plus se développer par là et comme un peu sur ces derniers matchs et sur ces derniers temps on continue dans la maladresse, on n'est pas confiant, t'as l'impression que dès qu'il y a une offensive adverse on devient tout fébrile et on est une défense de district ou de régional et c'est assez choquant en fait de voir la fébrilité à la fois défensive et mentale. Pour que tout simplement, en fait, on arrive à prendre un but archi rapidement et qu'on se fasse dribbler. Donc, comme disait Gâteau, facilement, je crois que c'était Romain Fèvre sur l'action,
C'est
où il
ça.
dribble sur le côté et en fait, il dribble limite en marchant. Et tu vois que Verratti, il a du mal à l'attraper, il veut pas faire faute, mais il se fait passer facilement. Que Marquinhos, c'est la même chose, et il se fait passer super facilement et il est sur la ligne de touche, enfin sur la ligne de but, et en fait, il fait une passe toute simple et ça fait but, mais. Mais bon, en tout cas, bien joué pour Mbappé, mais en fait, c'est incroyable la fébrilité défensive qu'on a à la fois défensive et mentale, c'est surtout ça.
Et toi, Berdis, qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand t'as vu le but de Mbappé? Tu as cru tout de suite, t'as cru que l'arbitre il allait siffler, qu'il allait annuler le but?
Ouais, bah déjà, à la télé, moi, je regardais sur MyCanal, et du coup, ils ont remis le direct, il y avait déjà le but qui a été marqué, donc c'est-à-dire que je comprenais pas tout de suite. Moi, je pensais que c'était une histoire de 6 mètres, mal joué, etc. Au final, quand on regarde le ralenti, on voit que c'est Vitinha et Soler qui disent à Mbappé joue, 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 qui gueulent un peu. même si je suis loin de les défendre parce que je peux pas les saquer là, faut reconnaître qu'ils ont bien ils l'ont bien vu sur ce coup-là. Mais ouais non, c'est bien joué, mais pour moi Mbappé, il est hyper content de marquer ce but parce que le seul truc qui le tient un petit peu en haleine dans cette fin de championnat, c'est le fait de devenir meilleur buteur. Il a eu sur les 4 dernières saisons, je pense qu'il veut l'avoir une 5e année d'affilée. C'est un titre, on sait Mbappé, il adore les records personnels, etc. C'est mentalité CR7. Je pense qu'il veut pas du tout laisser un titre comme ça, Jonathan David ou Ben Yedder. Ça, il perdrait en standing. Imagine Mbappé sans avoir une grosse blessure de toute la saison. Imagine il finit pas meilleur buteur. Ça serait un peu une catastrophe personnelle pour lui. Donc je pense que tous les buts, il les prend. Et c'est aussi ça qui le soulage en plus du collectif. C'est vraiment qu'il pense à sa carrière personnelle aussi à ce moment-là.
Ok, vous êtes 230, j'ai intérêt à avoir au moins 100 likes sur la vidéo parce que je comprends pas pourquoi vous regardez une vidéo que vous aimez pas, à part si vous êtes des Marseillais. Mais vous avez vu, même eux, ils nous donnent de l'argent, donc vous pouvez au moins liker. Du coup, il y a quelque chose que je voulais dire. Les deux premiers buts qu'on a pris, ça vient inévitablement du côté de Monsieur Juan Bernat. Est-ce que vous pensez que ce joueur-là est encore fait pour le haut niveau? Parce que défensivement, ça n'a jamais été exceptionnel, mais il y avait le côté offensif où il faisait des différences, notamment en Ligue des Champions. Là, que ce soit offensivement ou défensivement, à part la semaine dernière où il fait une passe d'aise pour Mbappé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'intéressant en ce qui concerne Juan Bernat, et surtout à 8 millions par an. Qu'est-ce que tu en penses, Gato?
Mais écoute, déjà, Bernat, comme tu l'as dit, faut revenir. Comment on l'a pris? On l'avait pris à la hâte. On l'a pris à la hâte parce que y avait, bah, les départs de Maxwell, Kurzawa, ça allait plus, etc., etc. Mais il nous avait surpris, et bien surpris, il avait bien commencé. Le problème, c'est qu'il y a eu une grosse blessure la saison dernière, et donc même la saison dernière, il a quasiment pas joué. Très très grosse blessure, il s'est fait les croisés et depuis même on a vu lutter en Coupe de France contre la Berrichonne de Châteauroux. Défensivement, ça ne va plus. Même il était dans la photo de famille aussi face à Rennes à domicile qu'on a perdu 2-0. Je me rappelle bien parce que j'étais au rang 3 et pour dire c'est très rare que je sois au rang 3 et j'étais vraiment vraiment à côté de lui. Non, franchement, Bernat, je pense que en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est terminé. Faut... Même en tant que doublure, c'est trop faible. Parce que moi, j'en ai marre d'avoir des doublures qui sont là et qui ne poussent pas les titulaires. Quand tu as une doublure, elle peut potentiellement aussi terminer titulaire à la fin de la saison. Parce qu'elle a pris les choses en compte. Parce que le joueur aussi a progressé. Parce qu'il a aussi poussé son titulaire sur le banc. Là, Bernat, c'est impossible. Alors, Bernat, y a Nuno Mendes qui est bon, etc. Mais Bernat, et en plus Nuno Mendes qui est sujetti à beaucoup de blessures mine de rien, il nous faut un arrière gauche fiable ou un piston gauche fiable. Mais les deux en réalité, quand on fouille, ils sont pas fiables les deux. Donc c'est pas bon. Bernat pour moi c'est dehors là, c'est le prochain mercato. Et clairement, il va falloir se pencher sur le dossier dans latéral gauche.
Berdis.
Ouais, bah Bernat, le problème, c'est, je pense qu'on est tous d'accord, beaucoup trop, un trop gros salaire, 8 millions par an pour une doublure, c'est une catastrophe, sachant que Nuno Mendes, en plus, c'est le plus petit salaire du club parmi les joueurs professionnels, si on sort les joueurs du centre de formation. Donc, quand tu vois ça, c'est bizarre. Je suis tout à fait d'accord avec Gato sur le fait qu'il faut des doublures qui viennent challenger les titulaires. Bernat, moi, c'est un joueur que j'ai extrêmement kiffé. C'est un mec qui nous a sauvés en phase de groupe l'année où on avait Liverpool-Naples. Où Di Maria met un putain de but face à Naples. Cette année-là, Bernat, il était exceptionnel. Depuis les croisés, c'est compliqué. Mais après, quand tu réfléchis, cet été, ça va être une galère, parce qu'à 8 millions par an, quel joueur va l'acheter? Quel club va l'acheter, pardon? Je pense qu'aucun. Ça va finir encore en prêt, comme les Draxler, les Wijnaldum, les Icardi, toutes ces conneries-là. Ça va encore finir sur un prêt. Il va retourner en Espagne, je pense, là où il y a de la famille, etc. Et l'année d'après, il sera libre. Si on peut le vendre, forcément, on signe tous, mais ouais, Bernat n'a plus de niveau pour le Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai pas envie de lui le lyncher, etc. Parce que c'est un mec, franchement, qui m'a fait kiffer il y a 2-3 ans. C'est un mec qui a mouillé le maillot, qui a respecté les supporters, qui venait voir les supporters à la fin des matchs. Franchement, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Mais il faut admettre qu'il a plus de niveau et que le rapport qualité-prix, 8 millions par an pour avoir des prestations comme ça, forcément, c'est une galère. Quand tu vois Guerrero, par exemple, qui est le concurrent de Nuno Mendes en sélection, Guerrero, il gagne 4 millions par an à Dortmund. Bernat, il gagne le double, tu vois, à Paris. Tu te dis, frère, autant prendre Guerrero, avoir la concurrence Mendes-Guerrero au PSG plutôt que qu'être en galère avec Bernat, sachant que Nuno Mendes, il rate un match sur deux parce qu'il est tout le temps blessé. Donc on a vraiment besoin d'une doublure côté gauche qui puisse être là, puisque Mendes n'est pas fiable à 100% malgré que ce soit un excellent joueur.
Lauriane?
Bah, t'as ça et t'as le. Déjà, chose à. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du match, le fait que Nuno soit sorti sur blessure, encore une fois, ce qui est assez chiant. Tu sens que du coup, encore une incapacité de. Je sais pas si c'est le staff médical qu'il faut aussi faire un recrutement complet parce qu'on le fait vite jouer alors que le mec il revient de blessure directement et tout ça. Guerrero, ce serait une super idée, sachant qu'en plus, sur ces dernières années, avant de faire Nuno, on était quand même intéressé par lui. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'est pas fait plus que ça. Ça aurait été un très bon joueur de banc, ou en tout cas un joueur de banc plus. Et dans la même relation de ce que disait Gattuso, il faut que tout simplement tes mecs sur le banc puissent avoir une qualité pour pouvoir tout simplement pousser tes gars qui sont titulaires. Pour les mettre dans ces derniers retranchements, parce que quand tu regardes les plus grands clubs, tu regardes, bah, voilà, on regarde City, on regarde même, je sais pas, le Real Madrid, le Liverpool, les Bayern Munich, etc., etc. C'est des joueurs qui ont des, enfin, c'est des équipes qui ont tout simplement des joueurs de banc qui sont très très forts et qui peuvent à tout moment vont servir à quelque chose. Et sur le niveau intrinsèque de Bernat, je pense que là où il y a eu un gros tournant, ça a été sur sa blessure, vraiment où ça a été très compliqué, où il a pris beaucoup de temps à revenir. Moi, j'ai mis beaucoup de doutes parce que pour moi, je pense qu'il faudrait arrêter les frais. Mais voilà, comme ce que vient de dire Robert, en fait, là, demain, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on en fait? À 8 millions par an, qui va le prendre avec son âge? Le mec, il a déjà 30 piges. Dans quel club? Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faudrait arrêter les frais de Bernat, mais ce n'est pas forcément le dossier le plus important, aussi techniquement, personnellement, dans ce PSG-là.
Ok, je voulais juste clarifier dans les commentaires, on parle des joueurs petit à petit, on est clairement conscient que tous les joueurs étaient quasiment hors de ce qu'on attend d'eux, qu'il n'y a personne qui est vraiment bon en ce moment. Mais en fait, on détaille, on va parler un peu de tout le monde, mais on ne va pas dire ils sont pas, que certains sont bons, ils n'ont tous pas été bons. Juste une chose, bah écoutez, j'ai vu pas mal de gens nous proposer des partenariats, moi j'ai pas envie de gérer ça. Dans les commentaires, s'il y en a qui connaissent des gens qui seraient intéressés par des partenariats, vous venez me voir, vous me dites en commentaire ou en chat, et on va vous donner un pourcentage parce que j'ai pas du tout envie de gérer ça. S'il y en a un qui gère ça, il me dit et je lui donne son pourcentage. Ok, il y a un moment où on est passé à 10, qu'il y a eu une expulsion. Selon vous, Galtier a fait le bon choix ou pas? Parce que notamment quand tu joues à 10, normalement des fois tu retires un attaquant. Nous, on a un attaquant qui sert un peu pas à grand-chose déjà quand on est à 11. Donc là, quand tu étais à 10, tu le laisses, ça se voit encore deux fois plus. Gato me disait tout à l'heure hors antenne que Mbappé a fait des efforts quand on est passé à 10 et qu'au final, tu te rendais compte que c'était comme si on était encore à 11 parce que c'est des choses qu'il fait pas d'habitude. Et du coup, en fait, même à 10, tu as l'impression d'être à 11 parce que c'était le même PSG que tu voyais d'habitude. Donc Gato, je te laisse expliquer ce que tu me disais tout à l'heure. Et est-ce que
En
toi, t'aurais
fait,
fait pareil que Galtier?
non, j'aurais pas fait pareil que Galtier, mais Mbappé faisait des efforts qu'il fait pas habituellement. C'est-à-dire que Mbappé, il joue dans un rôle de neuf, mais à gauche, où il occupe le flanc gauche en n'occupant pas le rôle d'ailier. Parce que quand tu es ailier, tu dois faire des appels dans le vide, tu dois faire des provocations, tu dois libérer des espaces pour ton milieu de terrain monte ou ton latéral monte ou que ta pointe puisse avoir des occasions. Ce qu'il ne fait pas habituellement. Là, il l'a fait parce qu'il n'y avait pas le choix et qu'il fallait absolument défendre et faire des replis et tout ça. Parce que, donc, en fait, il a fait le rôle d'ailier, mais il a attendu, on a dû être à 10 pour pouvoir le faire. Donc, une fois ça, il faisait les compensations et tout. Donc, ça fait que, factuellement, Lorient, sur la deuxième mi-temps, au début, n'était pas aussi dangereux que quand on était à 11, paradoxalement. Après, Galtier, par rapport à sa gestion, bah déjà, la gestion de ce match-là, c'est compliqué parce que tu prends un rouge, tu t'attends pas à prendre un rouge à la quoi, c'était la 20e, puisqu'il a pris
Ouais, troisième.
son jaune à la 6e, il me semble. Et puis, toutes tes solutions, tu les as tuées avant de pouvoir les créer, parce que tu n'as pas concerné les joueurs suffisamment longtemps pour qu'ils puissent être performants jusqu'aujourd'hui. Et Kidiké, c'est l'exemple type. Et Kidiké, il y a énormément de matchs où il aurait pu jouer, il aurait pu. Après, je ne sais pas s'il y a un problème de comportement, s'il y a beaucoup de choses, Mais il y a énormément de matchs où d'autres joueurs auraient pu au moins rentrer dans la rotation. Et c'est pour ça que comme on n'a pas une concurrence saine, on peut pas. Gatché n'avait pas de solution aujourd'hui, donc il aurait pu faire n'importe quel changement. Je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. De sortir Solaire pour mettre Ruiz, est-ce que tu gagnes vraiment? Non. Est-ce que tu perds aussi? Non plus. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur son changement. De toute façon, c'est à l'image de la saison. La deuxième partie de saison, elle est catastrophique en tout point sur au moins la gestion des hommes.
Et toi, Lauriel? N'oublie pas ton micro, il est coupé.
En fait, sa gestion, j'ai bah déjà très clairement, moi, en faisant un rapide tour et un résumé simple, la compo, j'ai pas du tout aimé. De continuer à titulariser encore Solaire, voilà, tu te prends le carton rouge rapidement, c'est relou. Donc ça te met dans le jus directement. À partir du carton rouge, tu attends longtemps pour pouvoir faire des changements. Donc c'est très long et c'est très dur. Il a fait quand même sortir un de nos meilleurs milieux cet après-midi, en fin d'après-midi, c'était Danilo. On l'a vu à sa réaction, donc ça a été assez énervant. Pour après, au final, mettre comment s'appelle Ekitike en milieu relayeur, alors que tu as Messi sur le terrain qui fait rien du tout. En fait, tu sais, tu le vois très très bien qu'au fur et à mesure, bah, Galtier continue encore à faire du micmac pas possible, mais en fait, il a tout simplement pas la main en fait sur son effectif. Et il sait même pas forcément bien le gérer, puisqu'il sait pas forcément mettre les joueurs au bon endroit et au bon moment pour qu'il puisse y avoir une alchimie correcte. Et c'est ça qui est un peu ce qui est frustrant avec cette équipe, parce que tu peux faire largement mieux avec cet effectif-là. Et les choix qu'ils sont faits bah, montrent tout simplement que ouais, Galtier, non, il doit pas continuer. Pour moi, il doit pas continuer. On le dit semaine après semaine, il doit partir. Il doit partir. Il faut qu'il y ait un communiqué qui soit fait rapidement. La Ligue 1, c'est bon, on sait que normalement c'est quasiment acquis, même si mathématiquement c'est pas encore fait à 100%. Mais il faut faire des choix forts parce que là on continue à perdre les joueurs mentalement et on sera pas à l'abri de faire des bourdes dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti.
Et toi, Berdy, t'as compris le changement, enfin le manque de changement de système de Galtier, ou est-ce que toi t'aurais fait autre chose?
Bah, le fait que Galtier veuille pas changer de système au moment du carton rouge. Ça, ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais si tu as travaillé le système toute la semaine, ok. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que, comme je l'ai dit en début de live, c'est qu'avec ce système-là, tu as besoin de joueurs sur les côtés qui ont un volume de course bah, important pour faire les allers-retours, pour amener du danger. Surtout que Mbappé, dans ce système, il est vachement esseulé devant, donc il a besoin d'avoir des mecs sur les côtés, comme Hakimi, qui le fait à droite. Donc, du coup, moi, j'aurais directement fait rentrer Mendes à ce moment-là. Et si vraiment je suis dans un monde idéal, si on n'est pas au Paris Saint-Germain, si j'ai un entraîneur qui a des couilles, ce qui n'est pas arrivé au PSG depuis des années, c'était pareil avec Pochettino, c'était pareil avec Emery, j'aurais sorti Messi, parce qu'aucun entraîneur du PSG ne fait, il ne sort jamais Neymar, jamais Mbappé, jamais Messi. J'aurais sorti directement Messi, puisque ouais, nous, les supporters du PSG, on est lucides, on n'est pas des fans de Messi, on n'est pas abrutis. On voit très bien que Messi au PSG, lui, ce qu'il vient faire, c'est marcher pendant 90 minutes. S'il peut faire une ou deux passes des. Un petit éclair de génie ou un petit crochet, une frappe de loin, ouais, il va le faire, mais on sent qu'il en a rien à foutre, quoi. C'est dur à dire. Je suis désolé pour les fans de Messi qui vont voir ça, qui, comme d'habitude, vont le sucer. Mais c'est la vérité, les gars. C'est Messi, il est là, il en a rien à faire. Et donc, quand tu joues à 10 contre 11, tu as besoin d'avoir du volume au milieu. On voit que Verratti, on avait l'impression qu'il avait 40 ans au milieu de terrain, il courait à droite, à gauche, c'était très compliqué pour lui. Donc, pour moi, j'aurais sorti Messi, tu rajoutes un milieu de terrain qui est capable de courir. Pas comme Fabien Ruiz, du coup, bah, tu mets un Zaïre Emery, parce que on n'a que ça comme milieu qui sait courir, plutôt que le faire rentrer piston droit après, c'est une catastrophe. Tu l'emmènes dans la cage, dans la fosse au lion, c'est un jeune milieu de terrain, tu fais encore rentrer piston droit, qu'est-ce qui va t'apporter? Rien d'étonnant. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut pas sortir Danilo, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est de faire rentrer Nuno Mendes super tard dans le match, et au final, tu te fais rentrer super tard dans le match, mais il se blesse. Donc au final, Galtier, pas Galtier, j'ai l'impression que même tu mets Pep Guardiola dans cette équipe-là aujourd'hui, ça aurait été une catastrophe. L'effectif n'est pas bon, il a été mal construit, les joueurs sont indisponibles, la mentalité n'y est pas, il n'y a rien qui va. Et en plus de ça, les ultras n'étaient pas là, donc t'entendais trois gosses par-ci par-là qui criaient Mbappé. Franchement, c'était une catastrophe de A à Z aujourd'hui, j'avais juste une envie, c'était d'éteindre ma télé, frère.
Ok. On va aborder Danilo, qui a récupéré 9 ballons. C'était le mec qui récupérait le plus de ballons sur le terrain. Bizarrement, enfin je dis bizarrement, on est habitué. C'est lui qui sort encore une fois. On voit qu'il est énervé, qu'il est frustré. chose qu'on voit pas souvent. D'habitude, il sort et tranquillement, même si on sait que c'est un mec qui a du caractère et qui crie sur tout le monde, là, il n'y a pas de souci. Mais envers l'entraîneur, là, on a vu quelque chose, des gestes d'humeur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec Danilo.
Ouais.
Je ne sais même pas quelle question poser à ce niveau-là. C'est tellement évident que ce n'est pas lui qui doit sortir. Est-ce que vous pensez qu'on risque de perdre Danilo niveau mentalement? Parce que j'ai vu qu'il y a certains joueurs qui, mentalement, ils ont lâché cette saison. À force de faire ce genre de choses, est-ce que tu risques pas de perdre un des deux joueurs qui fait une bonne saison dans ton effectif? Vas-y, gâteau.
Mais bien sûr. C'est comme dans une. Alors, faut retranscrire ça comme dans une petite société, une petite PME. Tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu fais en sorte que la boîte elle tient la baraque parce que tu es là, tu fais des heures sup, parce que tu es en train de te donner au travail. Et les personnes qui ont un statut supérieur à toi profitent juste de ça et ne sont là, ne sont jamais inquiétées. Bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à démissionner. C'est ça le truc. Et lui, à son niveau, à son échelle, alors il était décrié au début à son arrivée parce qu'on disait qu'il jouait avec des Timberland, parce que pour le milieu de terrain c'est trop lent, parce que ceci, parce que cela. Mais quand tu te rends compte qu'au final, un milieu de terrain ou un effectif, il faut qu'il soit construit pas seulement qu'avec des joueurs beaux, pas que seulement avec des joueurs costauds, pas seulement avec des joueurs rapides, pas seulement avec des joueurs lents, pas seulement avec des joueurs de ballon, pas seulement avec des joueurs qui sont bons de la tête, mais avec un équilibre. Et ce genre de joueur-là, t'en as besoin parce que non seulement il se donne, il ne parle jamais, il est bon. Cette saison, c'est une des rares satisfactions de la saison. Et pourtant, c'est toujours lui qui sort. Qu'est-ce que tu fais? Mentalement, tu es en train de le perdre. Au bout d'un moment, ça a été le capitaine de Porto, qui est un grand club. Ah oui, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps que ça fait plus d'un grand club. Ils ont deux Ligues des Champions, là où nous, on n'en a pas. Au Portugal, il n'y a personne qui parle avec eux, même si Benfica et Sporting, c'est sérieux. C'était le capitaine de Porto. Il me semble qu'il a été champion d'Europe en 2016 aussi, si je ne m'abuse. Donc non, au bout d'un moment, il va avoir des prétendants, peut-être des clubs moins huppés que le PSG, mais au moins, il va avoir un cadre sain et peut-être partir. Si franchement, je suis à sa place, je pense que je m'en vais. C'est triste, hein, parce que moi, j'aimerais le conserver, parce que c'est un gars qui est bon. Et au bout d'un moment, avec ce coach-là, ou autre coach, parce que c'est pas la première fois que ça arrive aussi. Je crois qu'il sera logiquement sur un départ.
Et toi, Berardis, tu penses quoi du traitement de Danilo au Paris Saint-Germain?
Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je pense que Danilo y restera, parce que comme on l'entend un petit peu de son entourage, etc., c'est qu'il se sent super bien à Paris et qu'il a l'impression que c'est une chance pour lui de jouer autant, etc. Donc, non, pour moi, il va rester, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a plusieurs choses sur sa sortie. Déjà, le fait qu'on perde, tu fais sortir un profil plutôt défensif sur le papier, ça a plutôt du sens. Mais aussi sur le fait qu'au moment où il sort, on ne sait pas trop s'il se blesse ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il se prend un tacle un peu par derrière de Bamba Dieng, je crois.
Ouais,
Et
à la cheville.
ouais. Et histoire là, je suis, ouais, du coup. Et du coup, même moi, je pense qu'il était blessé. Galtier, je pense qu'il a dû dire à, je ne sais plus qui rentre à sa place, Zaïre Emery peut-être. Qu'il a dû dire à Zaïre Emery d'accélérer l'échauffement et de rentrer à sa place. Mais pour moi, ce n'est pas hyper choquant sur ce match-là que Danilo sorte, puisque Zaïre Emery a quand même un profil un tout petit peu plus offensif que Danilo, et que Danilo, on pensait qu'il était blessé. Par contre, sur son traitement en général, c'est une catastrophe. Comme l'a dit Gato, ça fait 2 saisons que Danilo est très bon, que même c'est le meilleur défenseur du club, même si on a du Marquinhos ou du Kimpembe, en termes de régularité, Danilo, il est au-dessus. On parle français, on est tous d'accord là-dessus. Donc oui, non, pour moi, Danilo, aujourd'hui, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. 9 ballons récupérés. Donc c'est un bon match de sa part. C'est un des rares qui a été plutôt bon sans être flamboyant. Je ne dis pas que Danilo, c'était je ne sais qui aujourd'hui, c'était pas Beckenbauer non plus. Mais il a été correct. Mais pour moi, sur ce match-là, sur le contexte, etc., ça ne me choque pas du tout qu'il sorte. Je pense pas que ça a été une histoire de statut, etc. C'est plus une histoire de profil. Et pour moi, c'est. T'aurais pu sortir Danilo ou Sergio Ramos, un des deux, ça a été Danilo. On pensait qu'il était blessé, donc pour moi, il n'y a rien de choquant sur ce coup-là, même si j'ai pas envie de défendre Galtier. Sur ce coup-là, je suis plutôt d'accord.
Et toi, L'Oréal, tu penses qu'on risque de perdre Danilo mentalement si on continue à le traiter de cette manière ou pas?
Ouais, je pense aussi, très clairement. Parce que c'est un joueur, tu sens qu'il donne énormément de bonne volonté dans ce qu'il fait. Il s'est accroché énormément la première année où on l'a beaucoup décrié. Moi, personnellement, j'ai été assez sceptique et pourtant, j'étais un bon partisan de lui quand il était au FC Porto. Mais Je pense que, tu sais, au bout d'un moment, comme disait Gato, tu sais, si tu fais énormément d'efforts, énormément d'efforts, énormément d'efforts, et qu'au final, ça va jamais dans ton sens, et que les personnes qui sont en face de toi, il n'y a même pas forcément un peu de reconnaissance, ou ne serait-ce que de discipline par rapport à ce que toi tu fais et toi tu veux mettre en œuvre, c'est compliqué de rester dans ce cadre-là. Donc je pense que, il faut faire très attention, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres joueurs aussi qui peuvent être dans son cas à lui. Mais Danilo, la façon dont il est utilisé, la façon dont il est un peu manipulé, c'est pas forcément la meilleure des choses, ça c'est sûr et certain. Je pense que sur ce match-là, il y avait d'autres choix à faire, très clairement. Pour moi, tu pouvais sortir d'autres joueurs, tu pouvais sortir notamment un joueur comme Verratti voilà, bref, qui m'a totalement énervé. Et tu pouvais continuer à garder ce joueur-là, puisqu'on se faisait bouffer au milieu de terrain en continuant juste ta stat. J'ai vu donc c'était Danilo qui était premier récupérateur sur le terrain avec 9 ballons récupérés et les deux autres personnes qui étaient sur le classement c'était les deux milieux de terrain du FC Lorient. Donc en fait c'est pour dire en fait à quel point déjà nous notre inactivité face à un joueur qui est ne serait-ce que tout seul qui était aligné en milieu relayeur entre guillemets au début sur la compo et qui a autant récupéré que toute notre équipe. Donc il faut faire très attention à ce type de profil-là. Parce que on risque de perdre mentalement ce type de joueur-là. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il faut un électrochoc et cet électrochoc-là, il passe par la destitution de Monsieur Galtier. Voilà.
Ok, les amis, juste avant le match, j'étais en train de regarder le match de City et genre à la 84e minute, je vois Foden et Bernardo Silva qui rentrent et là, je vous cache pas que j'ai chialé. Je me suis dit non, il peut pas y avoir aussi grand écart entre ces deux clubs. C'est pas possible. Parce que là, Galtier, j'ai beau tomber sur lui aujourd'hui, mais franchement, quand je regardais le banc, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire?
Merci.
T'as un club, il a Foden et Bernardo Silva dans ce match où City a l'avantage et tout, même s'il n'y avait que 2-1. Et tu les fais rentrer à la 84e minute et nous, tu es obligé de faire rentrer Ekitike. Mais Ekitike, il est rentré, il a joué 30 minutes. Vous avez vu quoi? Quoi de positif dans ces 30 minutes? Qu'est-ce que vous avez pensé du match Ekitike? Vas-y, je te laisse commencer, Berdis.
Ah, j'ai pas envie de lui tomber dessus, Ekitike, hein, parce que cette année, j'en attendais beaucoup de lui. Moi, j'étais un fervent supporter de sa venue. Mais t'arrives dans la pire année du PSG sur les 15 dernières années, 10 dernières années. Donc, enfin, depuis QSI, c'est la pire saison en termes de jeu ou en termes de tout, à part le fait qu'on ait le titre. Mais non, Ekitike, je suis d'accord, c'est pas du Bernardo Silva, etc. Mais pour moi, il y a plein de choses. Là, il n'avait pas joué depuis 28 jours, je crois, j'avais vu la stat. Pourtant, il n'était pas blessé ou quoi que ce soit. C'est même quand on gagne 3-0, même quand on joue contre Angers 20e, tu ne fais pas jouer un jeune qui a besoin de récupérer de la confiance, un attaquant. Tu fais rentrer, en fait, Galtier le fait rentrer que quand on perd. Donc, à chaque fois, le type, il est en galère, il se retrouve à jouer à 10 contre 11, il a des ballons, on lui envoie des saucisses. Forcément, ça ne va pas lui donner confiance. Après, je suis bien d'accord qu'il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain, que c'est trop tôt. Moi, soit on le vend, soit on l'envoie en prêt. Moi, je le vois très bien en Bundesliga. Et tous les attaquants français en Bundesliga, ils se régalent. S'il va en Bundesliga, s'il va, je sais pas, à Leipzig, à Mönchengladbach et que là, il floppe encore, là, on pourra parler avec moi. Mais moi, pour l'instant, je continue à être optimiste sur la carrière de Ekitike. Mais je suis d'accord pour dire qu'au Paris Saint-Germain, ça ne marche pas et que son management est catastrophique. Quand tu as un jeune, tu as besoin de lui donner confiance. Et j'ai l'impression qu'Ekitike, dès qu'il joue, limite, on lui met sur les épaules en mode vas-y, c'est à toi de nous sauver aujourd'hui, alors que le frérot, il joue jamais, il a marqué 4 buts dans la saison. Je comprends pas du tout le management de Galtier là-dessus et c'est un point qui m'énerve beaucoup. Donc, non, Ekitike, je suis d'accord que l'écart avec City, ça fait mal quand tu fais rentrer Ekitike, Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery par rapport à du Foden, du Julian Alvarez ou quoi que ce soit. Quand j'ai basculé de match entre les deux, ça m'a fait mal aussi. Ça m'a fait très très mal, même en termes d'intensité, etc. C'était pas le même sport, ça n'avait rien à voir.
Et toi, Doriel?
Mais moi, bon, en tout cas, tonton et étiquette, là, moi personnellement, je fais partie, je suis encore dans le train, comme BR. Moi, je suis encore dans le train, je crois en lui. Ce mec a été bon avant, je ne comprendrais pas pourquoi il ne serait pas bon chez nous, juste il est dans un contexte où actuellement, c'est super compliqué. De pouvoir s'exprimer. Après, la façon dont il est jeté un peu en pâture, faut faire très attention. Mais là, actuellement, je peux pas. Là, franchement, la façon dont c'est géré, j'ai même pas forcément les mots. Il faut qu'on parle plus de la façon dont est tenu notre club, notre direction sportive, les choix de notamment de Campos, qui vont chercher ce type de joueur-là qui est déjà prometteur et qui veulent déjà le vendre un an plus tard. C'est tout ce micmac-là d'abord qu'il faut pointer du doigt, plutôt que pointer malheureusement un joueur qui est un peu, qui est un peu tout simplement victime de ce système-là. Donc voilà.
Gato, je vais t'épargner le sujet Ekitike parce que tu vas me remercier. Et on va accueillir Barry qui vient de nous rejoindre. Alors Barry, comment ça a été le match?
Lauriel, je t'ai dit quoi avant le match? Lauriel, je t'ai dit quoi? Quand le match il a commencé, je t'ai dit quoi?
Ah, tu voulais pas le
Qu'est-ce que je
regarder,
t'ai dit?
tu voulais pas le regarder, c'est bon.
Répète ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai
Barry
dit,
l'avait bien
vous
dit,
voulez pas que je le regarde.
c'est
Au final,
ça.
tu m'as branché. Ouais, non, mais non, faut regarder, faut débriefer, faut parler. Les gens t'attendent au tournant, etc., etc. Mais au final, les gars, je suis parti regarder le match. Mais je crois qu'on a tous vu le même match, non?
Ouais,
Hein?
malheureusement.
Ça va quoi? Je pense qu'on a tous vu le même match, les gars. Je pense qu'il n'y a pas, y a pas grand-chose à dire sur le match. Hein? Si ce n'est que tu t'es encore une fois fait rouler dessus, si ce n'est que tu es encore une équipe de clowns, si ce n'est que de ton premier attaquant, qui est le numéro 7, à ton gardien de but, qui est le numéro 99, tu es éclaté contre un mur. Si ce n'est que on travaille notre animation offensive maintenant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que, en fait, pour vous dire un truc, j'en reviens à tenter l'humour. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas d'humour, tu peux très vite vriller avec ce club. Il n'y a rien qui va, il n'y a que dalle. Là, je vois, il y a 319 personnes sur le match. Et ben, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la chaîne de Paris Central. C'est la première fois dans. Ouais, bref. C'est la première fois dans l'histoire de Paris Central. Et même, je crois, c'est la première fois de l'histoire du football que les 319 personnes qui sont dans le live seront unanimes sur le PSG. On est nul. Tu ne mérites pas la victoire. Le seul but que tu mets, c'est un but éclaté contre un mur. Faut se dire les choses. C'est un but. C'est un but. Bon, c'est un but où le gardien fait une erreur. Mais c'est un but éclaté contre un mur. Sinon, dans le jeu, t'es nul. T'es pas dangereux. Tu te fais botter à chaque fois que les mecs en face on lance une offensive. C'est ridicule. Tu es ridicule. Ton coach est complètement largué. Donc, ton coach, étant donné que son animation offensive n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer l'arbitre. Bernat, je ne sais même pas s'il a joué. Verratti, ça fait un an qu'il ne met pas un pied devant l'autre. Verratti, ça fait un an que c'est le joueur le plus nul que j'ai jamais vu passer ici. Le plus nul. Tactiquement, techniquement, même les choix. Est-ce que vous avez vu les choix qu'il a fait lorsque Hugo le fait, il met une vitesse? Qu'est-ce qu'il fait comme choix? Au lieu de couper pour se retrouver dans l'axe, pour éviter qu'Enzo le fait envoie à centre, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui tirer le maillot. Mais si tu veux son maillot, attends à la fin du match. Il va te le donner, Enzo le fait. Si tu veux son maillot, va demander à Nasser qui te le recrute à la fin de la saison, vu qu'il veut partir. Va le recruter, mais ne demande pas son maillot sur le terrain. T'en as 70e minute. Qui est-ce qui nous fait du mal encore aujourd'hui? Mister Ayman Kari, qui est un Parisien qui était chez nous, qui était chez nous, qui rentre en cours de jeu, si je ne dis pas de bêtises, et qui te fait du mal. Au final, moi, je peux même dire que c'est lui le buteur, parce que voilà, Dieng fait le gamin, il vole le but. Comme d'hab, le fameux ancien joueur qui marque. Donc, en fait, je ne sais même pas pourquoi on continue à se faire du mal, à débriefer les matchs, à se réunir là, une sorte de réunion d'alcooliques anonymes, à être là avec nos beaux décors, avec nos belles casquettes, avec nos beaux visages, avec nos belles locks, un gâteau, ou ton beau maillot, etc., que j'ai aussi. Je sais pas pourquoi on se prend la
Non,
tête
tu l'as,
avec
tu
un
l'as
comme
pas. Tu sais pourquoi? C'est moi-même qui l'ai fait, donc tu peux pas l'avoir. Mais je vais t'en faire un aussi. D'ailleurs, je vais en faire un à tous les membres de
Mais
Paris
tu rigoles?
Central s'ils veulent.
Avec plaisir.
Chaud.
Ah, regarde, en fait, c'est pas le bon logo. Tu regardes bien, c'est pas le bon logo.
Mais
Je l'ai fait
c'est
moi-même.
l'ancien.
Et du coup,
Hey,
tac, tac,
si
et voilà.
je te dis que j'ai ce maillot-là, tu me crois ou tu me crois pas? C'est un maillot concept. Si je te dis que je laisse ce maillot-là, tu me crois ou tu me crois pas? Je te jure,
Ouais,
attends,
c'est
ça
un
leur a
nouveau
marqué.
concept. Bah oui,
Je l'ai, mais je l'ai même déjà. Je l'ai même déjà pris en. J'ai même déjà mis sur Paris Central. Bref, voilà. Donc en fait, tu continues à te faire du mal et à espérer des choses. Les gars, faut plus rien espérer de cette saison-là. Si le recrutement est encore bidon la saison prochaine, ça va être encore le ridicule. Ça va être encore ça. Les seules choses qu'on peut débriefer, c'est les matchs de Lorient. Félicitations à Lorient, qui n'a pas gagné un match durant les 5 dernières rencontres et qui vient au Parc des Princes et qui arrive à partir de la 70e minute, 80e minute, à te lâcher des. Olé! Voilà. Voilà le résumé du Paris Saint-Germain. Merci, Galtier.
Ok. Ok. Bon, les gars, on a Marseille qui peut être à 5 points ce soir après avoir joué Auxerre à 5 journées de la fin. Moi, personnellement, j'ai vu dans les commentaires plein de gens inquiets. Moi, je ne suis pas inquiet parce que c'est pas que j'ai confiance au Paris Saint-Germain, c'est que je connais l'Olympique de Marseille et ils vont flopper, peu importe si on perd, ils ne vont jamais revenir. Ils vont absolument jamais revenir, c'est des floppers, vous le savez très bien. Arrêtez de flipper. Là, s'ils gagnent ce soir, et encore, parce que là, vu qu'on a joué en avance, ils auront peut-être même peur de revenir à 5 points, ils vont faire de la merde face à Auxerre. Attendez, soyez patients.
Semaine prochaine, la Marseille
va jouer lente. Hein.
Exactement. Ouais. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une dinguerie où, à cause de la Coupe de France, Lens va jouer mercredi, et du coup, Marseille aura une semaine, et Lens aura 3-4 jours. Donc là, déjà, il y a un truc bizarre. Mais bon. Et vous, vous êtes inquiets, les gars, ou pas? Non. Je sais pas celui qui veut commencer.
Non, franchement, non. Du tout. Franchement, non.
Non, pourquoi? Parce que il leur reste Lens. Même si Lens, ils ont 2 jours de récupération en main ou je ne sais quoi. Je pense pas que Marseille. Même si Marseille est bon à l'extérieur, faut le dire aussi. Hein. Je pense pas qu'ils iront gagner là-bas. Et puis même à domicile, ils vont faire des trucs de fou. C'est le genre de gars qui vont. Non. Même nous, de toute façon, il nous reste des matchs à gagner. C'est aussi simple que ça. On a juste voilà. J'étais sur un space tout à l'heure et les gens disaient que c'était le dernier gros match contre Lorient. Bon, si maintenant on dit que Lorient c'est des gros matchs à domicile, il faut se poser des questions sur non seulement le niveau de la Ligue 1, parce que si on a une équipe aussi puissante qui commence à lutter contre tout le monde, il faut se poser des questions. Et non, parce qu'après, il y a qui? Il nous reste Auxerre, 3, Auxerre à la Baie des Champs. qui vont jouer le maintien, mais bon, c'est pas quelque chose. Je suis pas spécialement inquiet. J'étais inquiet à un moment, dès lorsque on avait encore affronté Lorient, dès lorsque on parlait de potentiel de retour à 2 ou 3 points. Ok, mais là, non, là, c'est bon. Et puis, par contre, là, si par je ne sais quel moyen on n'est pas champion de France, ah là, par contre, là, non, là. Moi, ça, pour moi, c'est pas que c'est inconcevable, c'est impensable. Voilà.
Eh oui.
C'est tombé. Ok, dernière petite question. Après, on va prendre les questions dans les chats. Donc, préparez vos questions.
Juste, les gars, si l'OM devait passer devant le PSG, ils seront déjà devant le PSG. L'OM, ils vont lâcher des points, comme l'a dit Nix. Hein. Ils font que lâcher des points. Ils sont ridicules depuis le début de la saison. Ils ont plusieurs occasions de te mettre la tête sous l'eau, mais ils n'arrivent pas à le faire. Donc, en vrai, non.
Le problème, c'est l'OM à domicile, parce qu'à l'extérieur, ils sont très très bons. Mais l'OM au Vélodrome, cette année, c'est une catastrophe. Tous les gros matchs, ils les ont perdus au Vélodrome.
Le même problème que nous, en deuxième partie de saison, on dirait. Ouais. Bah là, les gars, quand même, ça fait trois défaites sur les 4 derniers matchs du Paris Saint-Germain à domicile. Si on n'était pas proche du titre, là, c'est des stats limite, t'es proche de la crise de novembre. En général, on est rentré dans la crise de novembre avec des résultats qui n'étaient pas aussi décevants que cette stat-là de 3 défaites en 4 matchs au Parc des Princes. Je crois que j'ai jamais vu ça. Ouais. Vas-y, Lauriane.
Non, mais c'est... En fait, comme tu dis, c'est chaud de se dire qu'on fait une crise de novembre au mois d'avril. Où normalement, en mois d'avril, tu es censé être un petit peu plus serein. Soit, sur les autres années, tu as le public des champions et tu es un peu en roue libre, mais tu arrives quand même à enchaîner. Mais là, ça fait déjà 2 saisons, parce que déjà, avec Pochettino, c'était un peu compliqué l'année dernière pour pouvoir commencer à faire des enchaînements en fin de saison. Je suis pas forcément, franchement, je suis vraiment pas forcément inquiet par rapport à ce qui peut se passer plus tard et même ce qu'il y aura. Si on n'y arrive pas, c'est vraiment une incapacité incroyable. C'est que là, si on dit qu'on est nul, c'est que dans quelques semaines, on pourra dire qu'on est archi-gaise, qu'on n'est pas fait pour le football, vraiment, parce que ça, c'est comme ça qu'il faudra nous catégoriser. Donc en vrai, je sais pas, c'est chiant, c'est une mauvaise passe. Après, espérons et faisons en sorte qu'on ne lâche pas trop de plumes et qu'à côté, bah, qu'il n'en ramasse pas trop. Marseille, je serais pas plus inquiet. En fait, c'est si jamais, par exemple, une équipe comme Lens arrive à faire une série qui peut être importante et nous, on lâche des points, on fait un petit nul par là, une petite défaite par-ci. Il suffit d'une défaite à nouveau et d'un match nul et on peut se remettre dans le jus bêtement. Donc, mais c'est pas pour autant que ça va tirer la sonnette d'alarme. Mais Parce que tout simplement, je pars du principe que le principal adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Donc après, on verra par la suite.
Et toi, Berdis?
Pourquoi on n'a pas eu la crise de novembre cette année? C'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, on a été, je crois, on n'a pas perdu un seul match. Tous les joueurs, ils étaient impliqués. C'était même s'il y avait des matchs, surtout en Ligue des Champions, face à Benfica ou face à la Juve, où on était déçus, on avait des matchs références. Depuis le mois de janvier, on a eu un match référence depuis la Coupe du Monde. C'est la victoire en Coupe de France face à Marseille. Et encore, c'était pas non plus un truc de fou. C'était pas le grand Paris Saint-Germain. Mais pour cette saison, par rapport à ce qu'on a depuis janvier, c'est notre seul match référence. Maintenant, on est en crise, mais le fait est qu'on est en crise depuis le mois de janvier. Pour moi, ce n'est pas une crise du mois d'avril, ce n'est pas une crise de fin avril, début mai. C'est une crise depuis le mois de janvier, depuis la Coupe du Monde, on est nul à chier. Les joueurs, ils sont revenus abîmés. Messi, il est revenu, il n'y en a plus rien à faire. Face au Bayern, ça nous a achevé parce qu'on n'a pas mis un but en huitième de finale de Ligue des Champions. On a été nul à chier, que ce soit à l'aller ou au retour. On était en mode, ouais, Mbappé va nous sauver, Mbappé va nous sauver. On est censé vouloir gagner la Ligue des Champions. On se repose sur un joueur en huitième de finale de retour de Ligue des Champions. Ça prouve à quel point le projet est bancal. Donc voilà, pour moi, je suis pas inquiet par rapport à Marseille, mais faut pas. Pour moi, c'est pas une crise temporaire, c'est une crise là qui va bientôt faire 5 mois, et j'ai hâte qu'on reparte sur un nouveau cycle. Et je sais pas si changer d'entraîneur c'est la seule solution, comme on le dit depuis bien longtemps. Faudrait bien toucher un petit peu plus haut, toucher dans l'organigramme, notamment un monsieur qui s'appelle Nasser El Khelaïfi, qui est intouchable dans ce club, peu importe les directeurs sportifs et les entraîneurs qui nous amènent. Lui, il est intouchable et chaque année, c'est nous qui pleurons et lui, il est tranquillement dans son siège. Donc voilà, il y a des problèmes à régler au PSG et pour moi, ce n'est pas qu'une simple crise du mois d'avril.
Ok, avant de lancer Barry sur un discours présidentiel sur les 3 défaites sur 4, préparez vos questions parce qu'une fois que Barry a fini, on répond aux questions qui sont dans le chat. S'il n'y en a pas, bon, on clôturera le live. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, c'est la dernière minute pour le faire. Allez, vas-y Barry.
Bah bref, faut mieux passer aux questions-réponses parce que tu veux parler de quoi des 3 défaites en 4 matchs. De toute façon, on l'a vu depuis le retour de la Coupe du Monde, cette équipe elle est complètement éclatée. Après voilà, après il y a des circonstances atténuantes, tu vois, il y a des blessures, il y a plein d'incertitudes. Il y a aussi le fait que certains joueurs sont allés en sélection, ils ont eu certains statuts, donc revenir au Paris Saint-Germain avec un autre statut différent, ça peut être perçu différemment en termes de psychologie, etc. Mais bon. Dis franchement, en fait, les 4 défaites en 3 matchs, tu te rends compte que bah ils sont mérités tout simplement. Mais moi, ce qui est encore plus effrayant avec ça, c'est de se dire que sur la phase aller du championnat, tu es premier en écrasant ta Ligue 1, et sur la deuxième phase de Ligue 1, alors j'ai pas revérifié la stat, mais avant le match contre Lorient, t'es premier ex aequo avec l'OL. Si tu prends uniquement la deuxième phase. C'est te dire à quel point ce championnat est moribond, est claqué, parce que normalement, c'est le moment de mettre la tête sous l'eau du Paris Saint-Germain. Dans un championnat normal, quand le PSG fait une première partie de saison pareille et une deuxième partie de saison s'est éclatée, dans la logique des choses, ils finissent troisième, quatrième et ils font les barrages de Ligue des Champions parce que les autres équipes vont les mettre sous l'eau. C'est te dire à quel point cette Ligue 1, elle est vraiment nulle. Et au final, bah, c'est comme la Coupe de France. Après, je m'arrête là, tu vois, je vais faire un petit hors-sujet. Mais par exemple, la Coupe de France, là, j'ai vu des tweets des personnes qui disaient, ouais, mais. Ouais, mais vous voyez, en fait, la Coupe de France, elle est spéciale. Bah oui, la Coupe de France, ça devient spéciale à partir du moment où tu l'as perdue. Parce que quand tu la joues, vous ne la calculez pas plus que ça. Donc au final, les joueurs, pour eux, la Coupe de France, c'est claqué. Le championnat, pour eux, c'est claqué. Donc au final, ils ne se donnent plus. Et tu te rends compte de ce que tu as actuellement. Donc les 3 défaites en 4 matchs, pour moi, ce n'est pas étonnant.
Ok, il y a une question qui était intéressante de Hip Hook. Elle a dit si le PSG perd le championnat, est-ce que ça ferait pas plus de bien que de mal? Premier qui a envie de s'exprimer là-dessus.
Non, je
Dire
pense pas.
ça.
Je pense pas. Je pense que
Bon.
le futur est déjà acté, donc non, je pense pas que ça ferait plus de bien. Puis si,
Imagine.
y a des Parisiens qui veulent perdre le titre, je sais pas quel club vous supportez, mais c'est pas le
Ah
Paris
oui.
Saint-Germain. C'est ça.
Cassez-vous si vous voulez perdre le titre et si vous les laissez à l'OM ou à Lens. C'est que vous aimez pas vraiment le PSG, hein. Vous aimez les strass et les paillettes.
J'ai vu des Parisiens me dire que ça ferait du bien que l'OM gagne le titre. Rendez-vous compte.
Non, non,
Les
non, non,
Parisiens,
non,
ça. Pas des Parisiens, pas des
ça,
Parisiens.
les gars, si on rentre
Beaucoup
là-dedans,
de porteurisme.
non.
Mais quand je te dis, en plus,
Alors,
c'est même pas des petits, c'est des mecs de notre génération, hein. 25, 26 ans. Rendez-vous
non,
compte
mais
de la.
Barry, ça, en fait, ils veulent que le PSG ait un gros coup de morale pour que les dirigeants prennent conscience qu'il faut un réel changement. Structurelle et une réelle fondation à mettre en place, ok, mais de là, voire perdre le titre. Mais comment tu veux perdre le titre? Pourquoi? Mais parce que vous, là, en plus, des fois, il y a des anciens qui parlent de ça, de perte de titre, ils n'ont pas 26, ils n'ont pas 27, ils n'ont pas 28 ans comme nous, ils ont 38, 40. Mais vous avez bien vécu les années sombres où on ne gagnait pas de titre, et encore, on ne gagnait pas de titre de champion, mais on gagnait des Coupes de France, etc. Là, on est là, on mange bien, continuez, parce que, à bien manger, parce qu'à un moment, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Mais vous êtes des malades, vous. Oui, il y a des clubs qui sont là, ils ont des, comme Marseille d'ailleurs, ils ont des 120 ans. Sans quelques années, ils n'ont pas encore dit titre de champion de France. Nous, on va avoir 11e, vous ne voulez pas prendre. Et prenez pas, nous, on va prendre.
Rendez-vous compte, ouais. C'est
Des
la question.
fous.
Rendez-vous compte. 11e titre, tu deviens le club le plus titré de France. Après 53, 54 ans, 53 ans. 53 ans. Donc en
53,
2027.
53 ans d'existence, ouais. Et je crois que
53
c'est
ans.
la 47e saison
En Ligue
ou
1.
quoi, ou je ne sais quoi.
Tu deviens le club le plus titré de France. Tu as déjà le plus de trophées. Et il y a des idiots qui ne veulent pas de ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable, juste parce qu'ils n'aiment pas le jeu. C'est pas enfin, bref.
Allez dire ça aux supporters de Tottenham qui n'ont jamais gagné un titre.
Y a une question de Louis Urban qui nous dit, pensez-vous qu'ils vont se reprendre pour les prochains matchs ou est-ce que ça va être pareil?
C'est pareil. Hein. Je pense que là, la fin de saison, ça va être. Faudra juste dormir devant les matchs tranquillement. Pour moi, les joueurs, à part Mbappé qui va vouloir aller chercher son titre de meilleur joueur, pour moi, là, il n'y a aucun joueur qui va pouvoir redresser la barre. Il n'y a aucun joueur qui a l'air impliqué dans le truc. Donc, non. Pour moi, c'est fini.
J'ai vu une question passer tout à l'heure de Vincent A, que je ne retrouve pas, mais je me rappelle de la question. Quand Neymar s'est blessé, beaucoup de personnes ont dit que c'était mieux pour l'équilibre de l'équipe et qu'on allait voir une équipe plus équilibrée et tout ça. Et je pense que, pour être tout à fait honnête, moi, je faisais partie de ces gens-là. On
Moi aussi.
constate que même en l'absence de Neymar, c'est aussi nul, aussi affreux à regarder. Donc, tu peux te dire qu'ils faisaient des exploits, qu'ils faisaient en sorte que au moins on gagnait des matchs. Mais est-ce qu'on n'a pas peut-être été trop dur avec Neymar? C'était la question de Vincent.
Non, 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 faut arrêter avec les trucs de est-ce qu'on n'a pas été trop dur? Le mec, il coûte 222 millions, il nous aura sorti quoi? Deux demi-bonnes saisons en entrée de championnat, et donc du coup, c'est pas être trop dur. Quand même, il y a, au bout d'un moment, moi j'attends un minimum de ce genre de joueur-là, et il faut comme aussi à mettre les choses dans leur contexte, c'est que le mec, il était extrêmement bon comme l'a été Messi, comme l'a été d'autres joueurs, parce qu'il y avait une Coupe du Monde en visu, et que les mecs, ils se préparaient mentalement, physiquement pour arriver à ce niveau-là. Derrière, après, quand on voit que la Coupe du Monde se termine, qu'il revient et on a bien vu le niveau qu'il a affiché, moi je suis désolé, on peut pas dire oui. Bien sûr, ça rigolait bien quand Neymar il était sur le terrain, etc. Mais ouais, Neymar il était sur le terrain quand on a aussi perdu des matchs et pourtant vous avez pas ouvert votre bouche. Donc, c'est toujours aussi intéressant et dans tous les cas, Neymar par rapport à l'attente qu'on doit avoir envers lui, il doit faire plus parce que très clairement, c'est le type de joueur qu'on a acheté. Pour pouvoir nous faire passer un autre step après celui d'Ibrahimovic. Donc, voilà, c'est fait pour ça. Donc, il n'y a pas d'être trop gentil ou je sais pas quoi. Non, au contraire, même trop gentil ou même trop méchant. On est même trop gentil avec ce type de joueur pour moi.
Ok.
Marie, on t'entend pas. Hein.
Non, s'il nous parle pas, t'inquiète.
Non,
Galtier.
ça tombe bien. S'il te plaît, merci d'avoir fait monter ce commentaire. C'est celui que je voulais répondre. Il ne fait pas exprès de se blesser. Bah les gars, on va rester sur du factuel. Hein. Il ne fait pas exprès de se blesser, oui. On peut dire clairement, oui, les blessures de Neymar ne sont pas dues à Neymar. Ne sont pas dues à potentiellement une hygiène de vie, et encore, c'est potentiellement le cas, mais elles sont dues à des fractures, des coups qu'il reçoit. Ok, maintenant, les blessures sont un fait factuel. Hein. Les gars, 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, 5 ans qu'il est blessé à partir du mois de février, et la seule année où il est là, il revient de blessure. Donc les gars, à un moment, s'il vous plaît, arrêtez de toujours noyer le poisson quand on vous parle des blessures de Neymar à nous dire, non, mais il ne fait pas exprès de se blesser. Oui, mais il est blessé. C'est un fait factuel. C'est comme R9 à l'époque. R9, quand il est à Madrid, il se fait le non, quand il est à l'Inter, pardon. Il se fait le genou une première fois. Il revient, il se refait le genou. Mais à l'Inter se dit quoi? Deux blessures. Tout R9 que t'es. 56 buts que tu as mis en une saison. Je crois en 60 matchs, si je ne dis pas de bêtises. L'attaquant qui a derrière, voilà, bercé toute une génération d'attaquants. Tes blessures sont un fait factuel. Elles sont un poids pour l'Inter Milan. Bonne continuation à toi. Et puis vas-y, après par au Real, il fait ce qu'il a fait et encore, il était en bout de course un peu au Real, même s'il a été très bon. Après, il va au Milan. Eh les gars, à un moment, faut arrêter d'essayer de noyer le poisson. C'est pas lui, c'est pas ses fautes, ses blessures. Oui, c'est pas sa faute, mais c'est un fait factuel. Elle pénalise le Paris Saint-Germain. Et en
Mais
plus,
surtout,
après.
Barry, un truc important,
Parce que,
la qualité
regarde,
première d'un joueur, c'est déjà sa présence. Après, peu importe comment ses blessures arrivent, bah, il n'est pas là, on a besoin de lui, on le paye pourquoi? C'est ça?
Neymar, pour le faire comprendre, Neymar. Neymar est excellemment bon. Si Neymar était... Après, je parlais de salaire, même si je n'ai pas trop parlé des salaires. Mais si Neymar était payé 10 millions, 15 millions, 20 millions, et qu'il était blessé de septembre à février, et qu'après, sur le banc, tu pouvais avoir un remplaçant viable qui, au moment où il se blesse, bah lui, le remplaçant peut rentrer, comme tu peux le voir à City dans deux clubs, et il peut se permettre de prendre la continuité de ce que fait Neymar, j'aurais rien dit, même si ça m'aurait un peu saoulé. Sauf que là, Neymar est payé 36 millions. C'est un joueur exceptionnel, c'est un top du top niveau. Donc forcément, à partir du moment où il est sur le terrain, ton jeu va forcément être axé sur lui et sur d'autres, parce que son individualité est extrêmement forte. Sauf que, donc ça veut donc dire qu'à 36 millions, tu ne peux pas te permettre d'avoir un remplaçant qui a le niveau de Neymar. Le remplaçant n'acceptera pas le banc lorsque Neymar est frais et dispo. Donc les gars, il faut s'en débarrasser pour avoir un remplaçant qui lui sera titulaire et qui tiendra la route, tout simplement.
Oui, il y a un truc, Nix, par rapport à ta question. Nix, moi, il y a un truc où je suis où j'ai eu tort, c'est que je disais, ouais, on sera meilleur sans la MNM, juste avec 2-3. Le fait est, je pense qu'au final, j'ai eu tort parce qu'on n'a jamais perdu un match avec la MNM. Et depuis qu'on n'a plus de la MNM, on se fait rouler dessus, même si on était déjà moins bon avant. Je pense qu'en fait, le meilleur duo à avoir, pour moi, c'est Mbappé-Neymar, parce que Neymar fait beaucoup plus d'efforts, au moins que Messi. Messi, c'est le marcheur, il est juste là pour marcher et faire des passes. Donc non, moi, je retire ce que j'ai dit à l'époque. Je dis, ouais, on serait mieux avec 2-3, peu importe lesquels. Je pense qu'on serait juste mieux sans Messi, avec une attaque Mbappé-Neymar et avec un autre point d'appui, type Harry Kane ou quoi que ce soit, sans faire dans le fictif.
C'est pas bon d'ailleurs, hein, depuis l'autre là que je vous montre, qui est pas bon du tout. Hein.
Non. Ok les gars, j'ai une question qui fera beaucoup débat. Je pense que je vais vous laisser vous battre là-dessus pour clôturer le live. Il y a deux questions sur le même joueur qui se rejoignent un petit peu. La première, c'est: pensez-vous que Verratti doit être menacé suite à sa saison ignoble et le fait qu'il nous coûte la LDC? Et la deuxième question, c'était: Verratti dans la transaction pour un meilleur milieu de terrain?
Allez, battez-vous. Tous les jours, je dégage. Je le vends, je le dégage. C'est des gars qui ont beaucoup de vécu au Paris Saint-Germain, qui ont fait de très belles choses, qui ont fait de très mauvaises choses, qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, sans être inquiétés. On va dire oui, mais on les a mal entourés, etc. À chaque fois que Verratti n'est pas là, le Paris Saint-Germain, cette saison, s'en sort un peu mieux. La défaite contre Rennes, il est présent. La défaite contre Lorient, aujourd'hui, il est présent. La défaite au Bayern, il est présent et il est coupable. Il y a trop de trucs, Verratti, au bout d'un moment, c'est bon. Là, on ne va pas parler de Marquinhos, on parle que Verratti. Wesh, il n'a pas progressé, tu veux quoi? Normalement, c'est lui le leader, c'est lui le capitaine, c'est lui qui doit haranguer. Et il est encore là à parler de l'arbitre. Des trucs qui datent de 2012, il faisait déjà ces choses-là. Wesh, les gars, non. Comment ça s'appelle? 2012, je rentre au lycée, aujourd'hui, il fait encore la même chose. Aujourd'hui, je suis en CD depuis quasiment 7 ans. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrête, progresse, fais des choses. Aujourd'hui, Marco Verratti, il était en avance sur son temps. Il était en avance. C'est pour ça qu'il était supérieur aux gens. Sauf que le temps, lui, il a continué et lui n'a pas progressé. Donc l'avance qu'il avait, et c'est réduit.
Il a même régressé.
L'âge aussi avance. Donc la différence physique qu'il avait par rapport aux autres joueurs de Ligue 1, elle s'est réduite. Et aujourd'hui, bah, il est contraint de voir que tout le monde lui tient tête.
T'aimes pas tout le monde lui tient tête, il est même en retard, mais fois 5. Quand tu vois son impact qu'il peut avoir sur le terrain, sur ses statistiques, moi il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, cette saison, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que les joueurs de Ligue 1, ils ont encore plus, ils lisent encore plus son jeu. Et donc du coup, parfois, ces trucs où il faisait devant la surface à pouvoir faire des ressorties de balles au pied, tranquillement, etc. Je ne sais pas si vous pouvez compter, mais on peut le faire. Et j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va sortir une vidéo troll comme ça, où il va faire toutes les pertes de balles devant la surface de réparation de Verratti. Parce que c'est incroyable, je crois, il y en a facilement 2 ou 3 par match. Facilement. Et moi, qui vais au stade encore plus pour le regarder et le voir, les gens, en fait, tout simplement, il n'est plus dans le truc. Niveau physique, il n'est plus dans le truc. Techniquement, il a encore une très grosse avance, parce qu'il est très bon techniquement, ça reste un beau joueur qui esthétiquement est beau, mais l'impact qu'il va avoir sur le terrain, je suis désolé, mais quand je le vois l'année dernière, et de voir que Verratti, il est plus jeune qu'un Modric, mais au final, Modric va avoir plus d'impact à 36 piges dans un match coup près, Bah, ça me fait peur, en fait, et qu'il est capable à faire des trucs de fou, que tu vois des Bellingham qui étaient au collège et en primaire l'année dernière, aujourd'hui sont quasiment plus forts et plus importants que lui, et j'en passe, des Jorginho, pardon, des Barella, des n'importe quel joueur. Aujourd'hui, maintenant, tu peux prendre 2-3 joueurs par équipe qui peuvent être aussi importants et même plus forts que Verratti. Donc pour moi, personnellement, Verratti, je prends tes bagages, on t'envoie au Bourget et on passe à autre chose, comme ça, on te met dans une transaction et on va chercher quelqu'un d'autre. Enfin.
Le problème de Verratti, c'est comme Neymar, c'est les blessures. C'est parce que là, aujourd'hui, il revient de blessure. Face au Bayern, il revient de blessure. À chaque fois, il revient de blessure. Il n'est jamais à 100% physiquement. Tu mets un Verratti à 100% physiquement, comme l'année dernière face à City, il a éteint City à lui tout seul. Donc, c'est comme Neymar. C'est des mecs, ils ont besoin d'être à 100% physiquement, comme tous les joueurs de foot, mais ils le sont que très rarement. Donc, un Verratti à 100% physiquement, je pense qu'on signe tous. C'est un milieu de terrain excellent, mais il ne l'est jamais à 100%. Il est toujours à 70-80%. Et au final, bah, tu vois que. Il a la technique, mais il n'a pas le coffre qui va avec.
C'est faux, parce que l'une des qualités de Verratti, c'est justement avant, lorsqu'il était blessé et qu'il revenait, on n'avait même pas l'impression qu'il revenait de blessure. Directement, il arrivait à reprendre sa place dans le collectif et avoir l'impact qu'il avait. Non, non, Verratti,
C'est
c'est toujours
fini,
ce qu'il
ça.
faisait.
C'est quand il avait 25 ans, frère. Maintenant,
Voilà,
c'est fini. Quand il revient, il a besoin de
ce qu'on
temps.
peut dire de Verratti, c'est qu'aujourd'hui, physiquement, il est largué, il a pris en âge, son jeu est basé sur un temps de réflexe au-dessus de la moyenne, sur un centre de gravité assez bas, sur une qualité technique exceptionnelle, mais surtout sur une vivacité. Verratti, c'était pas le plus rapide, mais Verratti, il avait une rapidité d'action qui, justement, il avait toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Sauf qu'avec l'âge, tes réflexes baissent, ta capacité physique baisse, ta vivacité va baisser. Ton explosivité va baisser, même si tu as une explosivité qui n'est pas rapide, mais tu as quand même une certaine explosivité, ça va baisser. Et donc forcément, si tu ne travailles pas, bon, on me l'a toujours dit, hein, passé 30 ans, c'est là où tu vas sentir le vrai truc. C'est là où tu vas sentir tout le travail que tu as passé durant ta quinzaine, durant ta vingtaine. Et là, tu sens que Verratti, il n'a pas travaillé, il n'a pas voulu avoir le coffre physiquement. Sous Pochettino, moi, je me rappelle que on commençait à avoir des bribes de Verratti. Verratti qui travaille, Verratti qui arrive enfin à taper des matchs de 90 minutes. Moi, je me rappelle d'un match sous Pochettino où il a le brassard de capitaine, il y a énormément de joueurs qui sont blessés. Verratti, il était exceptionnel. À un moment, il se retrouve ailier droit, à un autre moment, il se retrouve attaquant, à un autre moment, il se retrouve numéro 10. Il était partout. Esquis. Parce que il avait travaillé. Et là, tu te rends compte que le mec ne travaille plus. Physiquement, ça ne va plus, son cardio, ça ne va pas, il se fait dépasser par des mecs qui n'ont même pas sa qualité technique, il n'a même plus son coup d'avance, et même son tacle, où il permettait de tacler et de récupérer le ballon dans les pieds, son tacle rasoir que je surkiffais, il ne l'a même plus. Sa qualité de passe, son jeu long, il ne l'a même plus. Est-ce que vous avez le souvenir d'un jeu long qu'on voyait encore, il y a encore la saison dernière, de Verratti qui envoie une El Merry pass à Kylian Mbappé? On ne voit plus. D'ailleurs, en plus, au début de saison, j'avais fait une vidéo quand je parlais de Paredes. Et justement, je louais ses qualités de passe-là, son jeu long qui était exceptionnel et toujours une passe dans les pieds de son coéquipier. Il ne l'a plus. Il ne fait plus rien.
Ça se
Bon, alors
perd
après,
pas,
il y a moins
ça.
de courses devant lui. Il y a moins d'espace. Mais pourtant, il ne le fait plus. Même ses passes courtes, il ne les fait plus. Verratti, il avait un taux de passe clé exceptionnel. Il ne l'a plus. Donc en fait, aujourd'hui, Verratti n'est plus que l'ombre de lui-même.
Parce qu'il est jamais à
Et ça,
100%
c'est une vraie.
physiquement. Et ça, tu le perds pas. Ça, sa qualité de passe, il la perdra jamais. C'est juste qu'il est pas. Quand t'appelles physique, la technique ne peut pas suivre. Le physique fait marcher la technique, c'est pas l'inverse.
Et vous pensez quoi de ce
Ah, mais
commentaire qui dit
le physique, c'est.
que le problème de Verratti, c'est que Messi marche sur ses plates-bandes, pardon.
Non, non, c'est faux.
Non. J'en ai parlé en plus en début de saison. J'en ai parlé, mais. Ouais, non, parce que Verratti, il a toujours eu Neymar dans les pattes hein, depuis que Neymar est
Ouais.
là. Ça l'a déjà formé. Hein.
Ah, mais est-ce que c'est pareil, Messi ou Neymar? Parce que Messi, c'est autre chose, c'est un autre monstre que Neymar. Parce qu'on a toujours eu Neymar, mais Neymar n'a pas rendu tous les joueurs autour de lui inoffensifs de par leur prise de responsabilité. Quand tu vois des joueurs comme Hakimi et tous les autres autour qui. Tu vois tous les milieux qu'on a recrutés cet été, il n'y en a aucun qui prend ses responsabilités. Dès qu'il voit Messi, il lui donne le ballon.
Ouais, mais t'avais
Bon, les gars, moi, je vous laisse.
le truc là
Passez une bonne
bientôt.
soirée.
Salut Barry.
Salut
Mais
Barry.
de toute façon, on va clôturer aussi. On laisse le rêve.
Mais le truc, c'est que par rapport à Verratti, on n'avait pas forcément. Verratti Messi, on n'avait pas forcément on va dire cet avis-là quand au début de saison, on voyait qu'il y avait une connexion Messi-Verratti sur le terrain. Quand ça marchait très bien et qu'on enchaînait les victoires et on enchaînait les matchs. On marquait et on gagnait, on était invaincus, etc. Mais franchement, je vous invite à re-regarder les matchs pour ceux qui ont ce type de commentaires-là. Bah, il y avait une très belle connexion sur le terrain entre Messi et Verratti, ça jouait très bien, les deux ne se marchaient pas tant dessus. C'est juste que tout simplement, là, à l'heure actuelle, tu mets plein de choses. Le fait que Verratti ne s'entraîne plus, ou ne s'entraîne plus, ou en tout cas n'est plus aussi sérieux, n'est plus aussi discipliné, que physiquement c'est encore catastrophique, que tactiquement tu as un coach qui tout simplement ne t'utilise mal, que tu as peut-être un staff technique ou un staff médical qui n'arrive pas forcément à te mettre au plus haut niveau, ben voilà ce que ça donne en fait tout simplement. Mais c'est pas forcément le fait que Messi soit dans sa zone ou quoi que ce soit, parce que même techniquement, quand les deux jouent, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se dégage, c'est des joueurs qui restent intelligents, donc ils ont une connaissance du football, ils savent que s'il y en a un qui vient me chercher dans les pieds ou quoi que ce soit. Après, par contre, l'autre sujet de la responsabilité de nos milieux de terrain, moi je trouve que ça, c'est quelque chose qui a encore un peu plus à développer. Mais parce que c'est pas. En fait, c'est pas Messi, en fait, je pense, qui fait ça. Je pense que c'est surtout la personnalité et l'ego des trois devants et l'indiscipline tactique de ces joueurs-là à venir récupérer dans les pieds au milieu de terrain, qui donne en fait tout simplement pas de personnalité à tes joueurs derrière d'aller de l'avant. Vitinha, depuis je crois le match contre l'OM, en fait, je ne l'ai pas vu prendre le ballon, avancer, ou peut-être le dernier match, je crois, contre Lens, où il met sa frappe, mais hormis ça, il fallait attendre quoi? Il fallait attendre juste un carton rouge du côté de Lens. Donc, non, en fait, pour moi, c'est plus de la discipline tactique que ton coach doit tout simplement en fait mettre en œuvre pour que tout simplement, après toi, derrière, les mecs ils puissent être dans des bonnes conditions, avancer, être responsabilisés sur le terrain. Tirer sans qu'il y ait un Mbappé qui revienne au milieu de terrain comme aujourd'hui, comme ce qu'il a fait, qu'un Messi vienne quasiment en défense centrale pour pouvoir toucher du ballon, etc., etc.
Ok, il y en a un d'entre vous qui a quelque chose à ajouter avant de clôturer le live?
Tout
Bon
est dit,
courage pour
hein.
la fin de saison.
Ouais, force à vous.
C'est aussi simple que ça. Il faut pas que ça atteinte trop détende trop sur vos vies parce que on sait, hein, nous, le PSG, on le considère comme un membre de notre famille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut pas que ça fasse trop défaut sur votre quotidien, le taf, etc. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire avant de clôturer ce live.
Écoutez, vous êtes 236. N'oubliez pas de liker le live, ça nous aide énormément à ramener encore plus de monde pour qu'on puisse encore plus rigoler, faire plus de live, etc., etc. Merci L'Oréal, merci Gâteau, merci Berdis d'être passé pour ce live. Ça fait super plaisir de vous avoir. Repassez absolument quand vous voulez. Et puis voilà, on va dire que ici c'est Paris, même si c'est plus trop ça depuis quelques temps. C'est plus trop Paris, mais bon, on va dire quand même si c'est Paris. Salut les gars.
Salut.